Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast. Je suis Rosa Burstein et vous écoutez Les mecs que je veux ken. Je suis actuellement en rodage de mon tout nouveau spectacle, c'est complet à Paris au Cartel, mais vous pouvez me retrouver prochainement en tournée à Montpellier, Lille, Bruxelles, La Roche-sur-Yon, Ergué-Gabéric, Aix-les-Bains, Istres, Décines et Saint-Étienne. Tous les liens pour réserver sont sur mon site internet. À bientôt.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Les mecs que je veux ken. Chers auditeurs, chères auditrices, mes boulettes de viande à la tomate, mes boulettes de poisson au citron. J'espère que vous allez bien. De mon côté, ça va. J'ai l'impression d'être plus alignée, plus cohérente depuis que j'ai définitivement terminé l'ancien spectacle et que j'ai outé ma relation avec Mickaël sur Instagram. Bon, c'était un post, hein. Je vais pas du tout noyer mon compte de photos de couple. Mais pour les gens qui me suivent, j'ai l'impression que c'était réjouissant. Et maintenant, je peux continuer à partager des anecdotes sur ma vie en naviguant toujours entre révélation intime et la pudeur nécessaire aussi, évidemment, sinon c'est un peu cringe, comme disent les jeunes. Le rodage du nouveau spectacle se passe très bien, mais c'est beaucoup de travail pour jongler mentalement, déplacer des blocs, mettre à jour, modifier, enlever un mot. J'ai ajouté quand même pas mal de trucs et le spectacle fait maintenant 1h30. Et je reçois aussi des invités dans le podcast toujours plus passionnants. Aujourd'hui, le politologue, chroniqueur, auteur Clément Viktorovitch, à l'occasion de son spectacle L'art de ne pas dire. Et justement, je ne vous en dis pas plus, je vous laisse tout de suite découvrir Clément Viktorovitch. Enfin, vous le connaissez déjà, mais je vous laisse découvrir l'épisode. Bonne écoute.
En fait, cet après-midi, pour France Inter, je dois écrire une chronique sur le thème de l'illibéralisme. Et donc, je me suis dit que j'avais envie de j'en profiter, d'avoir un peu tes lumières là-dessus, et même, pourquoi pas, de après le poème, même de te lire la chronique pour savoir ce que tu pensais sur certains points, et vu que c'est des choses assez ténues, vu que tu parles beaucoup de... de l'endroit démocratique, et aussi dans ton livre, et aussi de voilà, je me suis dit que ça se trouve, ça pouvait être un...
Ouais, c'est un sujet qui me parle, qui m'habite.
Est-ce que c'est bon, c'est pas trop fort?
Non, c'est parfait.
Ok, super. Cher Clément, nous nous sommes rencontrés la première fois à 69, l'émission de Kian Kojandi, en début d'année, et j'ai été frappée par ta gentillesse, ta simplicité. Tu avais l'air accessible et je me suis dit « Oh, mais je pourrais peut-être recevoir Clément Viktorovitch dans le podcast !» Ton spectacle en a été l'occasion. Bravo pour ce seul en scène si intelligent sur la manipulation par le langage. Dans la continuité de ce que tu proposes en livre, en chronique, en live Twitch... Tu es accessible et tu rends donc accessible la rhétorique. Dans ton spectacle, tu incarnes le conseiller en communication du président qui, après avoir été évincé, cherche à se venger. Or, son arme est une conférence dans laquelle il dévoile tous les secrets qu'il a utilisés pour conquérir le pouvoir. Le titre, c'est « L'art de ne pas dire » et toi, tu en dis beaucoup. Tu nous aides à cerner les expressions politiques qui sont là pour remplir du vide. Tu nous éveilles sur les euphémismes qui devraient nous inquiéter, notamment concernant les violences policières. Ça m'a beaucoup touchée. Tu nous rends vigilants sur toutes ces pernicieuses dérives autoritaires camouflées dans du langage politique. Ça a même inspiré ma chronique de cet après-midi pour France Inter. Est-ce que je pourrais te la lire et avoir ton retour? Merci Clément.
Merci Rosa. Quelle belle introduction. J'en suis toute honorée.
J'ai bien pitché le spectacle?
Merveilleusement. Mieux que je n'aurais pu le faire moi-même. C'est parfait. Je vais m'en inspirer pour la suite.
Parfait. Moi, je te lis la chronique. Tu te sens pas obligé de rigoler. Hein.
Mais quand même, ce serait mieux.
Non. Si j'ai ton retour sur le sujet, c'est tout ce qui m'intéresse.
Passion pour les mots que personne ne connaît. Illibéralisme. Tu crois que ça parle de libéralisme économique? Pas du tout. C'est comme si les films Orange Mécanique ou Pulp Fiction parlaient de jus de fruits. Vraiment, rien à voir. L'illibéralisme, c'est pour parler des dérives autoritaires en démocratie. Et moi, j'entends l'illibéralisme. Ça me rappelle la fille la plus populaire du collège, Lily. Populaire, populisme, il n'y a qu'un pas. Les garçons étaient amoureux de Lily parce qu'elle faisait toujours gagner son équipe à la balle aux prisonniers. Si ça, c'est pas un jeu de tyran. On a parlé d'illibéralisme au début pour la Pologne et la Hongrie. Et maintenant, en France, il y a deux camps. Ceux qui disent « Non, mais en fait, on est dans une dictature, les gars !» Et ceux qui opposent « T'as l'impression d'être en Corée, Sophie, parce qu'il n'y avait plus de lait d'avoine pour ton chai latte ?» Au milieu, l'illibéralisme. Parce que quand même, depuis les attentats de 2015 et le recours à l'état d'urgence, on a perdu en liberté. Les violences policières, on n'est pas cons, on les voit, il y a les vidéos. Là, récemment, des flics ont confisqué sa perruque à une femme juive en la gardant menottée alors qu'elle faisait une crise de tétanie. La dame a 67 ans. Maintenant, pour des contrôles routiers, on agresse des mamies. Prochaine étape, confisquer leurs dentiers. On va me dire, Rosa, tu exagères. T'as pas compris, c'est pas exactement ça l'illibéralisme, c'est plus compliqué. Ok, je vais faire un parallèle avec le couple alors. Mettons qu'avec mon copain, on s'est choisi démocratiquement. On a voté pour être ensemble, on s'est privilégié à d'autres candidats. C'était pas un choix par défaut comme voter Macron pour faire barrage à Marine Le Pen. Non, non, moi avant lui, j'avais longtemps pratiqué en amour l'abstention. Donc je suis ravie de l'avoir trouvé, mais je découvre aussi les joies de la charge mentale. Rien n'est imposé a priori, je ne suis pas forcée de faire le lit, mais vu qu'il oublie, je le fais. Je suis résignée. Voilà. Je me dis, ça va, je suis pas son esclave si je tire moi tous les soirs les volets. Je lui demande parfois de s'en charger, mais il a apparemment moins besoin que moi d'obscurité. Je me permets de lui faire observer, en effet, qu'il aime la lumière. Pendant les 7 premiers mois de notre relation, il était incapable de l'éteindre en sortant des toilettes. Et je voulais pas avoir à m'en charger, ni lui donner des ordres. Donc je lui suggérais, en posant la question, « Oh tiens, c'est moi ou la lumière des toilettes est encore allumée ?» Pour pas gueuler, « Maintenant tu l'éteins, enculé !» C'est très dur pour moi d'être douce. Ma nature serait d'appliquer le pouvoir comme Staline ou Ceausescu. Mon copain, on est sur du Orban. T'as pas encore des pages dans les manuels d'histoire. La première fois qu'il a acheté des courses seul, sans que je lui fasse une liste, il a acheté 3 pommes potes. T'as plus de plastique que de compote. Ça m'a rendu Pol Pot. Donc voilà, le gars n'a pas un sens immense de l'initiative, mais il est drôle, intelligent, beau, conciliant. Oui, c'est moi qui organise les vacances, mais au moins c'est comme je le veux. Et on évite la guerre, il y a un petit parfum d'Europe. Notre foyer est critiquable, mais d'autres pays pourraient nous l'envier. On n'applique pas la surveillance, aucun de nous deux n'est très jaloux, et j'ai supprimé tes messages, Quentin.
Sérieux ?
Voilà. J'avais tenté au début de ma relation des 49-3 pour qu'on fasse un enfant, mon mec s'était rebellé, on a eu des débats, et je peux vous annoncer que j'ai réussi à faire passer l'arrêt de la capote suite à de longues négociations. Comme quoi, pour vivre un idéal démocratique en couple, un seul mot, communication.
Merci beaucoup, Rosa Burstein, pour ce très beau parallèle. On vous retrouve la semaine prochaine dans Zoom Zoom Zen.
Incroyable.
Oh, merci. T'as vu, la chronique est en deux parties.
Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Mais le fameux 49-3 domestique, hein, c'est une analogie qu'on utilise parfois pour faire comprendre ce qu'est le 49-3 à l'Assemblée nationale, hein, qui consiste à dire exactement, enfin, le 49-3 à l'Assemblée nationale, c'est exactement comme si au sein du couple, on disait quelque chose comme, c'est pas compliqué, c'est comme tu veux, tu choisis, soit ce soir, on va manger une pizza, soit c'est terminé entre nous. Bon, bah, tout le monde voit bien que oui, même si t'avais plutôt envie de sushi, et bah, tu vas la manger, ta margherita, et puis voilà. Effectivement, le 49-3 à l'Assemblée, ça ressemble quand même un petit peu à ça.
Exactement. Et en même temps, c'est légal.
Ah oui, bien sûr.
Et c'est ça la subtilité. C'est qu'en fait, l'usage du 49-3 se fait dans le cadre démocratique, mais ça peut couvrir quand même... Ça peut être critiquable parce que ça peut s'apparenter à de l'autoritarisme.
En fait, sur le 49-3, c'est un débat qui est vraiment très compliqué en soi. Il se justifiait dans l'esprit du général de Gaulle qui voulait faire une rupture avec la 4e République et donc avoir une 5e dans laquelle l'exécutif, le gouvernement, n'était pas esclave des revirements du Parlement. Et donc, il a inséré dans la Constitution de très nombreuses dispositions qui permettent à l'exécutif, au gouvernement, de contrôler les assemblées parlementaires et singulièrement l'Assemblée nationale. Le problème, c'est que depuis, les temps ont changé, pour plein de raisons, on pourrait y revenir, mais ça deviendrait un cours de droit constitutionnel. Je ne suis pas sûr que ton public serait passionné. Mais en tout cas, ce qui est vrai, c'est qu'aujourd'hui, ces dispositions dont on pouvait penser qu'elles étaient nécessaires dans les années 50, on voit bien qu'elles permettent de brutaliser une Assemblée nationale dans un contexte politique où ça se justifie beaucoup moins, voire ça ne se justifie plus. Et effectivement, on a vu la l'aboutissement de cela au moment de la réforme des retraites, qui pour moi est très singulière et quelque part ça fait peut-être écho à ce que tu disais sur l'illibéralisme, qui est un concept difficile mais un concept intéressant. Et on pourrait y revenir parce que ça fait peut-être écho aussi au travail que moi j'essaye de mener sur le langage. Mais au moment de la réforme des retraites, tout de même, dans ce régime dans lequel on vit et que l'on appelle démocratie, démos kratos, le pouvoir au peuple, nous avons là une réforme qui a été menée contre le peuple, quelle que soit la définition que l'on donne du mot peuple. Parce que, bon, le mot peuple, c'est une tarte à la crème. Qu'est-ce que c'est que le peuple ? On pourrait en débattre très longtemps. Mais, en l'occurrence, au moment de la réforme des retraites, si nous disions que le peuple, c'était la majorité des Français, des Françaises et des Français, et ce qu'ils et elles pensent, bah, c'est pas compliqué, la réforme était très largement rejetée dans les sondages. Hein. Plus de 70% des Français et des Françaises interrogées qui étaient contre. Bon, si on dit que le peuple, c'est les plus motivés, ceux qui ont l'idée la mieux établie, la plus forte, et qui sont prêts à la défendre dans la rue. Bon, bah, il y avait 2 millions de Français dans les rues, donc le peuple, à cet égard, rejetait la réforme des retraites. Si le peuple, c'est les corps intermédiaires et les syndicats, bon, bah, là, il y avait une union de tous les syndicats contre la réforme des retraites. Et même si le peuple, à minima, le plus petit dénominateur commun du peuple, si le peuple, c'est les représentants élus à l'Assemblée nationale, eh bien, l'Assemblée n'a pas pu voter, mais de toute évidence, elle aurait voté contre la réforme. Donc voilà une réforme qui a été menée contre le peuple, quelle que soit la définition que l'on donne du peuple, avec pour seule légitimité, c'est ce que tu dis à juste titre, une légitimité légale. La réforme des retraites, elle est passée de manière légale.
C'est ça.
Légale, oui, mais légitime, la question peut se poser.
Et en fait, ça, là où la démocratie est en péril, c'est quand l'exécutif a trop de pouvoir. Parce que même, finalement, moi, ce qui me touche le plus dans ce que tu dis, c'est le fait que l'Assemblée nationale soit si démunie. Parce que moi, j'ai toujours peur du peuple. Enfin, tu vois, je veux dire, je le trouve, quand j'ai écouté des avocats, parce que sur l'illibéralisme, c'est beaucoup lié à des questions de droit et de constitution. En fait, la question du peuple, comme tu dis, c'est large parce que, bon, bah, le référendum, c'est ce qui peut mener à un Brexit. Donc parfois, si je comprends bien avec l'illibéralisme, c'est aussi quand la constitution peut faire barrage à l'exécutif.
En fait, il y a deux choses dans ce que tu dis, mais c'est très intéressant. Et en fait, ce que tu dis est partagé, je crois, par de nombreuses personnes, notamment dans les sphères du pouvoir, mais n'est jamais dit. J'ai peur du peuple. En fait, ce qui est intéressant, c'est que à l'origine de l'origine du mot démocratie, bon, ça y est, on est parti sur une discussion sur la démocratie. C'est terrible. Mais à l'origine de l'origine, en fait, le mot démocratie était vu de manière péjorative. Parce qu'il était pensé comme le pouvoir au démos, c'est-à-dire à la foule, dans ce qu'elle a de plus violente, potentiellement brutale, déraisonnée, irréfléchie. Dans la démocratie, on entendait déjà à l'époque de Platon, mais jusqu'au moment de la Révolution française, le mot démocratie n'était pas du tout valorisé. On entendait le pouvoir donné à une foule qui peut à n'importe quel moment lyncher, opprimer et violenter. Et c'est vrai que le mot a été reconnoté positivement au cours du 19e et du 20e siècle. Et aujourd'hui, nous sommes face à ce que le philosophe Jacques Rancière appelle en effet la haine du peuple. Et ce que l'on constate, c'est que, tu as parfaitement raison, il y a, chez une partie des responsables politiques, peut-être chez la majorité d'entre elles et d'entre eux d'ailleurs, il y a une crainte, je n'emploierai pas le mot de haine que je trouve fort, mais il y a à minima une crainte, une peur du peuple, avec cette idée que quand même, bon, les Françaises et les Français d'accord, mais on va pas les laisser gouverner. Enfin, ce serait n'importe quoi, ce serait la chienlit. Il y a un peu cette idée-là, quoi. Et donc, on en vient au régime dans lequel nous vivons, que l'on appelle démocratie, que l'on abrite derrière ce mot que plus personne ne définit. C'est-à-dire que quand tu demandes aux gens « mais c'est quoi la démocratie ?», ils vont te répondre, déjà soit ils ne sauront pas quoi dire, soit s'ils ont fait un peu d'histoire, ils te diront « bah oui, c'est le gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple, j'ai vaguement le souvenir que Lincoln a dit ça, en effet c'est la déclaration de Gettysburg, mais cette définition derrière laquelle on s'abrite, en fait elle ne dit absolument rien. Bon, le gouvernement du peuple, bah, c'est la définition d'un régime politique, le gouvernement par le peuple, soit… En effet, ça c'est l'idéal de la souveraineté populaire, mais par le peuple, comment? Par quel procédé? Quand le peuple élit des représentants qui gouvernent à sa place, est-ce que le peuple gouverne ou est-ce que ce sont les représentants qui gouvernent? Vraie question. Bon, mais si ça doit être le peuple tout entier qui gouverne, comment tu fais gouverner un pays par 65 millions d'habitants? Ça pose quand même des questions pratiques. Donc on voit bien que le gouvernement par le peuple, c'est vite dit, ça ouvre en fait un océan de débat derrière sur comment ça s'applique. Quant au gouvernement pour le peuple, alors ça c'est une tarte à la crème absolue, puisque ça ne veut rien dire. Ça veut simplement dire gouverner dans le sens de l'intérêt général. Mais l'intérêt général, où est-il? Qui le connaît? Comment le savoir? Est-ce que l'intérêt général, c'est pas l'intérêt de tous et de toutes? Parce que ça n'existe pas. Il n'y a jamais une décision qui est dans l'intérêt de tout le monde. Une décision politique, elle fait toujours des perdants et des gagnants. Bon, alors l'intérêt général, c'est quoi? C'est l'intérêt de la nation. Mais l'intérêt de la nation, c'est quoi? C'est un intérêt de puissance, de souveraineté, de liberté, de participation. Enfin, en fait, derrière, le problème, c'est qu'il y a toujours des définitions concurrente de l'intérêt général, on n'est jamais d'accord, c'est même la définition de la politique. Donc cette définition de la démocratie, le gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple, ne dit absolument rien de ce que devrait être ce régime démocratique. Et c'est intéressant parce que on s'abrite derrière ce mot, qu'on brandit comme un totem, non mais la France est démocratique, et effectivement quand il y a des critiques qui s'expriment à l'égard, et c'est là où on en revient à l'illibéralisme, et de manière peut-être un peu plus concrète, parce que là je me rends compte que
c'est passionnant.
je suis peut-être monté un peu trop vite, mais les critiques qui s'exercent, et c'est ce que tu dis dans ta chronique à juste titre, aujourd'hui quand on a des critiques qui s'exercent à l'égard du gouvernement, où on dit, mais tout de même là, il y a un exercice du pouvoir qui est brutal à minima, tout le monde le voit, les violences policières, tout le monde les a vues, les mains arrachées, les yeux crevés, tout le monde les a vues. Les journalistes violentés.
Rémi Piscine, les coups de matraque.
Absolument. Enfin, tu vois, les journalistes qui sont là pour prendre des images, qui sont retrouvés violentés par les forces de l'ordre. Tout le monde les a vus. Les gamins désarmés qui sont morts.
Naël.
Tout le monde a vu tout cela. Donc, on voit bien qu'il y a un exercice du pouvoir via les forces de l'ordre, la police, qui est un exercice brutal, voire autoritaire. C'est-à-dire, quand on parle de la réforme des retraites imposée contre le peuple, il me semble qu'on peut parler d'un exercice autoritaire du pouvoir. Ça me semble absolument pas être une exagération. Ça me semble même être quelque part un mot à minima. Bon, donc tout le monde voit bien que ça existe. Et quand on commence à porter ces critiques, immédiatement, la réponse c'est bah, allez-y, c'est ce que tu dis, essayez la dictature pour voir.
C'est ça.
Allez en Corée du Nord, vous verrez ce que c'est. Oui, mais sauf que il n'y a pas sur Terre la démocratie, régime idéal qui serait celui de la France, la dictature, régime terrible qui serait celui de la Corée du Nord, l'Érythrée, la Chine et la Russie. Il y a au milieu toute une palette de régimes possibles, toute une palette d'autoritarismes différents, sans aller jusqu'à la dictature. La France n'est pas une dictature, celles et ceux qui disent ça, effectivement, délirent. On élit encore nos gouvernements. C'est vrai, c'est incontestable. Donc la France n'est pas une dictature, encore moins un totalitarisme. Bon, ceux qui disent ça ont une... alors pour le coup, qu'ils aillent voir l'Allemagne nazie ou la Russie stalinienne, ils verront où aujourd'hui la Corée du Nord des dictateurs Kim, ou l'Érythrée, qui est un des pays les plus fermés du monde, ils verront ce que c'est qu'un totalitarisme. Donc non, par contre, un autoritarisme, on peut en débattre. Et un illibéralisme, on peut en débattre. Et effectivement, l'illibéralisme, on voit bien ce que c'est le moment où plusieurs contre-pouvoirs essentiels en démocratie, la presse, le conseil constitutionnel, les tribunaux, les activistes, le moment où ces pouvoirs-là sont attaqués, délégitimés, l'université, les chercheurs, le moment où ces pouvoirs-là sont attaqués, délégitimés, et là tout de même en France, le conseil constitutionnel, il y a quelques années, Emmanuel Macron lui-même disait, il va falloir réfléchir un peu à ce conseil qui commence à nous emmerder, faudrait voir s'il n'y a pas une réforme possible. Il l'a dit il y a quelques années. Bon, l'université, on l'a un peu vite oublié, mais souvenons-nous quand même que les chercheurs et chercheuses ont fait l'objet d'une attaque très violente de la part de Dominique Vidal, précédente ministre des universités, enfin de l'enseignement supérieur, qui disait ce serait bien de diligenter une petite enquête quand même pour voir ce qui se passe au niveau de l'islamo-gauchisme à l'université. Elle s'est faite sèchement réprimandée par le CNRS et la conférence des présidents d'université qui lui ont dit, mais vous êtes mignonne madame la ministre, mais ce mot n'est pas un concept scientifique, on ne sait pas quoi en faire. Donc, si vous voulez, on va diligenter une enquête sur rien, puis on va rien trouver, ou alors juste on se met tous d'accord pour dire que vous avez dit n'importe quoi.
Ouais, du discrédit, quoi.
Exactement. Et ça jetait du discrédit. Bon, Jean-Michel Blanquer, qui ne cessait de fustiger le wokisme dans les facs. Bon, qu'est-ce que c'est sinon des tentatives de délégitimer l'université? Bon, la presse, on a vu les attaques sur Mediapart, par exemple, constamment accusée d'être une force déstabilisatrice. Bon, qu'est-ce que c'est sinon une tentative de délégitimer, là aussi, les enquêtes de presse? Donc, il y a quand même tout un tas d'indices qui sont tout à fait inquiétants en France, qui l'amènent, selon moi, c'est mon analyse, mon opinion, enfin pas mon opinion, c'est mon analyse que je partage, mais je force personne à la partager, mais il me semble qu'il y a des indices là qui montrent que la France serait sur une voie tout à fait inquiétante, qui la rapproche effectivement de régimes comme celui de Viktor Orban. Et tout cela, et c'est là où ça nous ramène davantage à ce que je dis et je développe dans le spectacle, tout cela s'incarne aussi dans le langage, avec ce qui me semble être la spécificité de la politique française depuis 6 ou 7 ans, c'est-à-dire depuis la présidence Macron. Mais en fait, une spécificité qui n'est pas exclusive à la France, on a vu ça aussi aux États-Unis sous le trumpisme, c'est-à-dire une déconnexion totale entre ce qui est dit et ce qui est fait, entre les mots et la réalité. Tout le monde voit les violences policières, tout le monde les voit, elles sont sous nos yeux. Nous avons les vidéos, tout le monde les voit. Le gouvernement, je refuse qu'on parle de violences policières, ça n'existe pas. Gérald Darmanin, quand j'entends parler de violences policières, je m'étouffe. Fin de citation. Bon, au moment de... Je pourrais enchaîner 2000 exemples. Au moment du chlordécone, tout le monde voyait bien qu'il y avait un scandale. C'était établi scientifiquement qu'il y avait un scandale autour du chlordécone. Emmanuel Macron, il faut arrêter de dire que le chlordécone donne le cancer, parce que c'est pas vrai. Bon, donc, et les exemples comme ça. Bon, Gérard Depardieu, pour prendre un exemple présent.
Bien sûr.
Tout le monde les a vus, les images. Évidemment. Tout le monde les a vus.
Ouais.
Voilà, établi par des journalistes du service public. Bon, Emmanuel Macron, qui dit deux choses, qui dit, un, c'est un grand homme, il rend fier la France. Enfin, tout le monde les a vus, les images. On les a eus sous les yeux. Et immédiatement après, et puis attention, parce que il y a peut-être quand même des erreurs de montage, on ne sait jamais. Ce sont les journalistes du service public qui en ont été réduits à devoir faire authentifier leur montage par huissier, parce que le président de la République avait remis en cause leur honnêteté, leur intégrité. Bon, quand on voit tout ça, on voit bien qu'il y a en France une tendance, et je pourrais enchaîner 2000 exemples. Au moment de la loi sécurité globale, il y avait l'article 24, je cite de mémoire, c'est peut-être pas, je me trompe peut-être de chiffre, un article dont toutes les sociétés de journalistes, de tous les médias français, tous, disaient, cet article est pour nous très inquiétant, il risque de nous empêcher de documenter ce qui se passe dans les manifestations. Toutes les sociétés de journalistes disaient ça. Réponse de Christophe Castaner à l'Assemblée nationale, mais vous n'avez rien compris, cet article 24 est là pour garantir la liberté de la presse. Tous les journalistes s'alarment. Le ministre de l'Intérieur dit, mais non, mais c'est pour garantir la liberté de la presse. Bon, et je pourrais continuer comme ça pendant 2 heures. Tu en aurais marre, tes auditeurs et tes auditrices aussi.
Non, pas du tout marre. Et est-ce que tu as suivi là, ce qui se passe au niveau européen aussi sur la question du viol? Pourquoi mais c'est un peu ténu sur la France et l'Allemagne. Pourquoi elles se sont ralliées à la Pologne et la Hongrie? Parce que j'ai vu Dupond-Moretti accuser Glucksmann. Ça, c'est quand même aussi encore un pas en arrière du gouvernement Macron sur le droit des femmes.
Ça, cette question, alors pour le coup, moi je me permets pas de m'avancer plus loin pour une raison simple, c'est qu'elle est juridiquement compliquée.
Okay. Ouais, c'est ce qu'on m'a dit aussi. Ouais.
Ouais, j'ai vu des juristes femmes dire attention, la définition européenne elle pourrait être une régression en France. Moi j'ai pas suffisamment creusé la question pour me forger mon avis.
Oui, j'ai vu ça. Et c'est vrai que c'est toujours cette question du droit, tu vois, parce que ma petite sœur, elle fait une thèse en droit européen de l'environnement. Je l'ai appelée pour lui parler du libéralisme. Mais résultat, quand je lui ai parlé de violence policière, elle m'a dit « c'est pas vraiment le sujet ». J'ai dit « quand même, c'est grave ». Elle m'a fait « non, la question, c'est les décisions que rendront la justice pour accuser les policiers ». C'est pas en fait c'est ça qui doit être renforcé. Elle m'a dit c'est en fait en gros l'équilibre démocratique, l'idéal démocratique, c'est quand on sera satisfait du travail de la justice pour condamner les violences policières ou les viols et non pas les violences policières en soi, parce que ça c'est pas elle m'a dit c'est pas l'État. Tu vois, j'étais un peu mode
Oui, en fait, ça veut dire qu'elle a un point de vue purement juridique de la question, c'est un angle analytique qui se justifie tout à fait. Moi, je regarde cette question-là avec mon angle de politiste, par la science politique, qui est la discipline que j'ai pratiquée et enseignée à l'université. Et de ce point de vue-là, en fait, en sciences politiques, tu es attentif plutôt à ce qu'on appelle la définition et l'élaboration des politiques publiques. Et ce que regarde aujourd'hui la science politique, c'est le fait que justement les politiques publiques ne passent pas que par le prisme du droit. Ça passe aussi par le prisme de circulaires, de choses qui sont d'indications qui sont données aux administrations. Ça passe aussi par le prisme de signaux qui sont envoyés directement via le discours, par le pouvoir politique. Et en l'occurrence, sur la question des violences policières. Par contre, ce que tu me dis est très vrai, c'est-à-dire que la question juridique est une vraie question. C'est-à-dire que quand on voit qu'aujourd'hui, l'inspection générale de la police nationale, la fameuse IGPN, dépend en réalité du ministère de l'Intérieur, et que en réalité l'IGPN ce sont des policiers qui jugent des policiers, le tout dépendant in fine de l'administration du ministre de l'Intérieur, on peut s'interroger à juste titre me semble-t-il sur l'indépendance de l'IGPN. Et on voit bien, et là aussi tout le monde le voit, que les policiers en France sont très faiblement condamnés pour des violences policières que tout le monde constate. Et d'ailleurs, il n'y a pas que moi qui le dis. Moi, je me souviens de David Lebars. David Lebars, bon, un homme pas si connu que cela, il est le président du syndicat des commissaires de police, le président ou le secrétaire général du syndicat des commissaires de police. Au moment des Gilets jaunes, David Lebars lui-même, qui n'est pas un ami des manifestants, qui n'est pas du côté de la chienlit, qui est plutôt du côté des forces de l'ordre, lui-même disait, écoutez, à un moment donné, là, tout le monde voit bien que il y a des vidéos avec des violences policières qui sont manifestes, il y a des enquêtes de l'IGPN qui n'avancent pas ou terriblement lentement, alors qu'à côté, les manifestants, eux, sont condamnés en comparution immédiate. Tout le monde voit bien, lui-même le disait, que là, il y a une asymétrie, et cette asymétrie, elle sape la confiance des citoyennes et des citoyens en la police. Donc, cette question-là, la question, effectivement, des jugements rendus sur les violences policières est une question capitale, et à cet égard, je crois, selon moi, qu'en effet, la France a devant elle des réformes qui me paraissent nécessaires. Mais la question n'est pas que juridique, et tout le monde voit bien que Didier Lallement, ancien préfet de police de Paris, lui-même qui disait à une gilet jaune, « Madame, nous ne sommes pas dans le même camp ». Le préfet de police de Paris qui disait qu'il n'était pas dans le camp d'une partie des citoyennes et des citoyens. Mais il n'y a pas de camp. En tant que préfet, représentant de l'État, il ne doit pas regarder des camps. Il n'est que dans un seul camp, celui de la République. La République qui inclut absolument tous les citoyennes, enfin toutes les citoyennes et tous les citoyens qui respectent les lois républicaines. Et que je sache, on a le droit de porter un gilet jaune et d'estimer que les choses vont mal en France. C'est encore autorisé par la loi. Donc Didier Lallement, qui disait à une gilet jaune « Madame, nous ne sommes pas dans le même camp », Didier Lallement, responsable, mais tout le monde le savait, des violences policières qui ont été commises durant le mouvement des Gilets jaunes, Didier Lallement est resté en poste des années, avant qu'il soit débarqué par le pouvoir politique. Bon, donc là, on voit bien que la question n'est pas que judiciaire et qu'à un moment donné, quand tu as un homme tel que lui, qui donne les ordres dont on a observé les conséquences et qu'il reste en poste, soutenu par le pouvoir politique, on voit bien que là, il y a une forme de volonté du pouvoir politique d'avoir une police qui s'exprime de manière à minima brutale. Alors est-ce que les brutalités sont justifiées? C'est toute la question. C'est toujours la question qu'il faut poser. Bon, et encore une fois, il y a des violences légitimes commises par la police. La police est effectivement détentrice de l'exercice légitime de la violence. Mais ça ne veut pas dire que toutes les violences de la police sont légitimes. En fait, en l'occurrence, cet état de fait, le fait que l'IGPN dépend du ministère de l'Intérieur, ça a toujours été le cas. La Grande-Bretagne, par exemple, était dans la même situation il y a quelques années. La Grande-Bretagne a décidé de passer son inspection générale de la police, la police des polices, a décidé de la passer du côté de la magistrature, du côté de la justice. Ce qui, évidemment, est garant davantage d'indépendance. Mais bon, en France, ça fait des années qu'on est dans cette situation. C'est plutôt ce qu'il faut pointer du doigt. C'est plutôt une ambiance générale.
Permissivité.
Oui, voilà. C'est-à-dire que du temps des premières années de François Hollande, par exemple. Je prends un dessin, les premières années de François Hollande. On était dans la même situation. Bon, et il n'y avait pas tant de difficultés que ça du point de vue des manifestations. C'est sous François Hollande que le schéma du maintien de l'ordre a changé, que les policiers ont commencé à nasser les manifestations et qu'on a eu des manifestations qui, soudain, ont vu se sont tendues, notamment, peut-être pas seulement, peut-être que les manifestants, c'est ce que disent les policiers, peut-être que les manifestants sont devenus plus violents. Est-ce vrai? Mais par contre, ce qui est vrai, c'est aussi que, du fait du schéma du maintien de l'ordre, du fait de la technique des NAS, de l'utilisation beaucoup plus fréquente des gaz lacrymogènes, etc., etc., on a des contextes de manifestation qui se sont tendus. Et donc là, c'est la poule et l'œuf. Est-ce que c'est les manifestants qui sont violents et donc les policiers qui répondent davantage? C'est ce que dit la police. Ce que disent les manifestants, c'est que c'est la police qui a un schéma du maintien de l'ordre qui est beaucoup plus brutal et donc eux répondent par de la violence à la violence des policiers. Bon, donc, mais voilà.
Là, on a un contexte aussi. Hollande, 2015, attentat. Et donc aussi, à ce moment-là, justification de la violence des policiers parce qu'on est reconnaissant aux policiers, parce qu'ils nous protègent des terroristes et que glissement vers plus de surveillance.
Peut-être, c'est possible. En tout cas, moi, la question qui m'intéresse, parce que bon, tout ça, c'est des choses que l'on constate, dont on parle beaucoup depuis des années, mais moi, la question qui m'intéresse, c'est de dire ces questionnements sont légitimes. Un. Deux, ces questionnements ne sont pas anodins. Et en réalité, réfléchir sur, certes, la pratique du pouvoir, certes, les violences policières, en effet, mais également sur la manière dont tout cela est pris en charge par le discours politique, la manière dont tout cela s'incarne dans les mots de nos gouvernements et dans le refus de responsabilité, l'invisibilisation de ces questions, ça n'existe pas. Passez votre chemin, quand j'entends violence policière, je m'étouffe, etc. Là, on a, selon moi, un vrai problème de responsabilité. La définition minimale de la démocratie, c'est le régime dans lequel les gouvernants prennent la responsabilité de leurs actions devant les gouvernés. C'est ça la définition minimale. C'est le fait de dire, on élit des types qui nous gouvernent, de la même manière que les rois nous gouvernaient, on élit des types qui nous gouvernent, et tous les 5 ans, ils prennent la responsabilité de ce qu'ils ont fait en retournant aux urnes devant les citoyens, face au jugement des citoyennes et des citoyens. Bon, ça c'est la définition minimale de la démocratie, elle n'est pas très enthousiasmante, mais c'est la définition minimale. Et cette définition, même la plus minimale de la démocratie, selon moi, cesse de s'appliquer si les gouvernants ne prennent pas la responsabilité de ce qu'ils ont fait. C'est le minimum qu'ils puissent accepter de prendre en charge comme responsabilité de leur mandat, c'est de dire voilà ce qu'on a fait, jugez-nous. Et là, il me semble qu'on a depuis 6 ou 7 ans un gouvernement qui fait tout pour ne pas accepter la responsabilité de ses actes, quitte à décrire la réalité en des termes contraires à ce qu'est la réalité elle-même. Et un dernier exemple, parce que quand même, c'est passé inaperçu. Ça m'a rendu fou. J'ai hurlé derrière ma télévision. J'en ai fait, j'ai vu ça en direct sur Twitch. On en a fait une petite vidéo. Au moment où Emmanuel Macron vient chez C'est à vous, c'est l'interview dans laquelle il dit Gérard Depardieu rend fier à la France. Il parle de la loi immigration qui vient d'être votée et qui a été considérablement modifiée sous l'influence des Républicains et du Rassemblement National vers une très grande dureté vis-à-vis de l'immigration. Et notamment, il y avait une disposition qui était dans la loi initialement, qui était le fait de régulariser les travailleurs sans papier dans les métiers en tension. Ce qui, selon moi, c'est mon opinion, je l'assume comme telle, est le minimum qu'on peut faire.
Bien sûr.
Tu vois, on sait qu'on a un problème de recrutement dans le BTP, l'hôtellerie, la restauration, c'est des travaux difficiles, c'est des travaux que de facto les Françaises et les Français ne veulent manifestement pas faire. Bon, on a besoin de faire tourner ces secteurs, les professionnels eux-mêmes nous disent, mais attendez, nous on a vraiment, vraiment besoin de main-d'œuvre immigrée. Les travailleurs payent leurs impôts, travaillent, contribuent à l'économie française, ne comptent pas leurs heures. Le moins que l'on puisse faire, c'est les régulariser. Et encore, le projet initial du gouvernement, c'était de les régulariser pendant un an. Donc, on n'était pas non plus...
Sur un gros cadeau.
Voilà, c'est ça. C'est pas comme si on avait distribué des titres de séjour. Bon, c'était quand même le minimum, selon moi, possible. Ça, c'est mon opinion. Bon, c'était ce que défendait Emmanuel Macron, Gérald Darmanin. Cette disposition a été amendée sous l'influence des Républicains dans la direction de quelque chose de beaucoup moins protecteur, puisque normalement, ça devait être un droit opposable. C'est-à-dire que les immigrés sans papiers concernés, s'ils avaient de quoi prouver qu'ils étaient sur le territoire depuis un certain temps, qu'ils avaient bien travaillé, ils venaient en préfecture, ils disaient « Voilà, j'ai travaillé, je veux un titre de séjour » et c'était opposable, on était forcé de leur donner. Et là, le gouvernement, sous l'influence des Républicains, est repassé à une version qui est soumise à l'approbation du préfet, donc potentiellement à de l'arbitraire. Ça veut dire que même si tu remplis les critères, un préfet pourra dire « Bah non, parce que, je sais pas quoi d'ailleurs, parce qu'on a déjà trop régularisé, parce que... »
Pas depuis assez longtemps, voilà, etc.
Tu me dis que c'est un métier en tension, mais quand même, est-ce que vraiment le restaurant dans lequel t'es, on peut considérer... J'en sais rien, tu vois, bon, c'est tout le problème. On a soumis cette décision à l'approbation du préfet. Bon, ça c'est la version sous l'influence des Républicains. Que dit Emmanuel Macron ? C'est à vous. Devant les Français, il dit, je le cite de tête, mais je suis quasiment au mot près, il dit, non mais attendez, sur l'approbation du préfet, pardon, mais dans le projet de loi initial, il y avait l'idée qu'on puisse demander une régularisation sans aucune intervention du préfet. Ça veut dire qu'on aurait créé une
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Nouvelle filière d'immigration illégale. Ça n'est pas sérieux.
Ça n'est pas sérieux, disait-il. C'était la disposition que lui, Elisabeth Borne, première ministre, Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, défendait depuis des mois et des mois. Il la défendait depuis des mois et des mois. Il disait c'est grâce à cette disposition que le projet de loi est équilibré. Et parce que la réalité change, parce que tout d'un coup leur projet de loi est amendé et qu'il faut défendre le nouveau projet de loi, Emmanuel Macron, non mais quand même, c'était pas sérieux. Vous voyez, ce que lui défendait deux semaines avant, tout d'un coup n'était plus sérieux. On est dans l'ère de la post-vérité. C'est factuel, c'est incontestable. Tout le monde peut le voir, tout le monde peut vérifier ce que j'ai dit. On est dans un monde où les gouvernants n'acceptent plus la responsabilité de ce qu'ils disaient quelques semaines plus tôt. Et oui, en effet, d'où ce spectacle dans lequel on parle de tout ça, l'art de ne pas dire, le titre n'est pas choisi au hasard, l'art de ne pas dire, oui, en effet, je trouve tout cela inquiétant et pour moi, ça doit nous interroger sur la réalité de ce qu'est aujourd'hui notre régime politique, notre régime dit démocratique.
Je me suis même demandé si c'était aussi pour ça l'urgence de ton spectacle, si c'était lié à toutes ces dérives à droite, voire à l'extrême droite, ce qui s'est passé aux Pays-Bas, ce qu'on a vu monter, le parti d'extrême droite en Allemagne. Je me suis demandé si peut-être t'étais monté sur scène avec ce sentiment de « non mais là, c'est grave ».
Ravir Milei.
Oi, oi, oi. Qui bon est...
Aïe, gratiné.
Ouais, on peut faire des blagues quand même, parce qu'il est vraiment très marrant, mais très flippant, quoi, c'est fou. Mais bon, je me suis demandé, est-ce que Macron, c'est l'absence de pensée ou est-ce que c'est une pensée qui se droitise ?
En fait, alors, plein de questions dans cette question, mais on touche au cœur du sujet. À la limite, je dirais que la droitisation, ça n'est pas mon questionnement dans ce spectacle en tant que tel. On y viendra peut-être avec mon co-auteur Ferdinand Barbet, hein, parce que le spectacle a été co-écrit avec Ferdinand Barbet. On y viendra peut-être à réfléchir sur la droitisation, l'extrême droite, on sait jamais, on verra ce qui se passera en 2027. On a quand même des élections présidentielles qui, à certains égards, peuvent paraître inquiétantes. Enfin, une élection présidentielle qui, à certains égards, peut paraître inquiétante. Donc ça, on verra. C'est moins la question de la droitisation que vraiment ce que tu viens de dire sur le rejet de responsabilité et le camouflage de l'idéologie. Est-ce que Emmanuel Macron n'a aucune idéologie ? Est-ce qu'il ne pense rien ? Est-ce qu'il est capable, comme ça, d'avoir un revirement de ce qu'il propose au gré des circonstances ? C'est possible. Est-ce qu'il a, ce que moi je pense plutôt, est-ce qu'il a une idéologie ? Une direction, on l'appelle, alors c'est là où les économistes ne seront pas d'accord, d'accord entre eux. On peut l'appeler libéral, on peut l'appeler capitaliste, on peut l'appeler néolibéral, néocapitaliste. Bon, je laisse les économistes mettre un mot dessus. En tout cas, on voit bien, en réalité, qu'il y a une idéologie économique. Et c'est pas lui faire insulte que de le dire. La politique, c'est toujours affaire d'idéologie. Ça n'est que cela, par définition. La politique, c'est l'affrontement entre plusieurs idéologies, plusieurs visions du monde, plusieurs systèmes de valeurs. Et c'est bien, et c'est grand, et c'est honorable de se battre pour son idéologie. Mais il faut l'assumer. Mmh. Et Emmanuel Macron ne l'a jamais fait. Il n'a jamais assumé de dire « voilà ce que je pense, voilà où je veux amener la France ». Il ne fait que se revendiquer du bon sens, du pragmatisme. Au fond, c'est un bon gestionnaire. Mais c'est pas vrai, c'est pas un bon gestionnaire, c'est un idéologue. Et c'est normal, et c'est bien qu'il le soit. Mais il faut le dire. Et tu vois, encore une fois, les exemples sont on peut les enchaîner. Tu parlais effectivement de cette cérémonie religieuse de Hanouka à l'Élysée. Scandale absolu.
Absolument.
Infraction, mais claire.
À la laïcité.
Au principe de laïcité.
Bien sûr.
Mais tous les juristes te le diront. Enfin, infraction claire, manifeste, au principe de laïcité.
N'importe quoi.
Et c'est le même gouvernement qui ne cesse de critiquer la France insoumise comme étant, je les cite, ambigu vis-à-vis de la laïcité. Mais alors... En quoi, comment, parce que la France Insoumise a émis, France Insoumise à qui on peut par ailleurs adresser moult critiques, c'est pas le problème, hein, mais parce que la France Insoumise a émis des interrogations quant à l'interdiction de l'abaya à l'école.
Ouais, bien sûr, ça c'était n'importe quoi.
Oui, mais grande surprise, il y a plein de juristes qui émettaient des interrogations quant à l'interdiction de l'abaya à l'école. Ce concept quand même de signe religieux par destination,
qui
est un peu curieux, en tout cas discutable. Bon, c'est reconnu par le Conseil d'État, mais discutable, on peut s'interroger. on a le droit. Et donc, encore une fois, tu vois le monde dans lequel on vit. Des députés de la nation s'interrogent sur une décision qui était à minima contestable, l'interdiction de l'abaya à l'école, et mettent des interrogations. On leur dit, ah bah, vous vous interrogez là-dessus, c'est vraiment que vous n'êtes pas laïque, vous avez des ambiguïtés sur la laïcité. Et à côté, le président qui fait une cérémonie de Hanouka à l'Elysée, ça choque personne. Enfin, ouais. On vit dans un monde où tout est renversé. Tout est renversé, et in fine, ceux qui sont délégitimés, ceux qui sont discrédités, disqualifiés en permanence, ce sont une partie des députés de l'opposition, la presse, les activistes, les associatifs, les militants, les universitaires, les tribunaux, le Conseil constitutionnel. Effectivement, on peut commencer à s'interroger.
Et après, il y a aussi des critiques dans l'opposition, au sein de la gauche, sur le fait de dire comment on réinvente la gauche. Parce que tu vois, sur les dérives autoritaires, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui sont malheureux à LFI, puisque dès qu'ils expriment une opposition, et c'était quel humoriste de gauche qui se moquait du fait que c'était pas très démocratique la manière de voter au sein de la France insoumise, et ensuite que l'éviction de Raquel Guérido, quand un coup elle s'opposait à Mathilde, qu'on était aussi sur des procédés assez dictatoriaux aussi, mais bon.
Tu mets le doigt sur quelque chose de très important, c'est que, et c'est un vrai problème, on a tendance aujourd'hui à brandir l'idéal démocratique comme réservé à la seule sphère du gouvernement. C'est-à-dire on attend du gouvernement de la France qu'il soit démocratique. Mais si l'idéal démocratique est un idéal, c'est-à-dire, je vais définir l'idéal démocratique de la manière la plus simple et donc rapide et donc erronée qui soit, en disant l'idéal démocratique, c'est à minima la souveraineté populaire. Le fait que les gens, et j'emploie à dessein non pas les citoyennes et les citoyens, les gens puissent décider pour eux-mêmes, par eux-mêmes, de ce qu'ils veulent dans leur destin commun. J'ai bien dit les gens. Pourquoi ? Parce qu'en fait, cet idéal démocratique, il n'a aucune raison de rester limité à la seule sphère du gouvernement. Et donc, en effet, quand tu as un parti politique qui n'a que le mot démocratie à la bouche, voire le mot révision constitutionnelle pour faire une nouvelle république plus démocratique à la bouche, mais que dans son fonctionnement interne, il refuse l'idéal démocratique, on a le droit de s'interroger, on a le droit, mais on peut aller plus loin quand tu vois qu'aujourd'hui en entreprise, l'entreprise c'est quand même le milieu le plus dictatorial qui soit. Mmh. L'entreprise c'est quand même le milieu où tu as quelques-uns, les actionnaires, voire un seul, le PDG, qui décide pour tout un groupement d'individus. Bon, mais ces individus ont aussi, devraient avoir, ont un point de vue sur le devenir de l'entreprise, un point de vue d'ailleurs informé, irrigué par leur contact avec le terrain, un contact que peut-être les actionnaires ou le dirigeant ont perdu. Et donc, cet idéal démocratique, me semble-t-il, nous devrions lutter pour qu'il s'impose partout, dans tout groupement humain. L'idéal démocratique, c'est pas juste un régime politique, ça devrait être une direction que nous suivons dans nos vies. Les entreprises devraient être démocratiques, les partis et mouvements politiques devraient être démocratiques, mais si je vais par là, la famille devrait être l'amour. Démocratique. L'amour, absolument. L'idéal démocratique, le fait que nous décidions en commun, pour nous-mêmes et par nous-mêmes, ce que nous voulons en tant que groupe, eh ben oui, dans une famille, on voit bien que ça s'incarne et que cet idéal démocratique au sein de la famille, bon, je tire un fil, on pourrait me reprocher d'avoir élargi le concept jusqu'à ce qu'ils ne veulent plus rien dire, mais admettons, c'est pas grave, on réfléchit, on jette des pistes et puis ensuite on définira les concepts plus précisément, mais cet idéal démocratique au sein du couple et de la famille, qu'est-ce que ce serait ? Ben, ce serait précisément, par exemple, le rejet du patriarcat, de l'idée que c'est le point de vue de l'homme qui doit s'imposer, le rejet de l'autorité parentale qui s'exprime de manière brutale en disant que bah, les enfants sont aussi des individus et que peut-être qu'eux aussi peuvent avoir droit au chapitre jusqu'à un certain point. Bon, quand on a 6 ans, évidemment, est-ce qu'on sait pleinement ce qui est bon pour soi ? Pas toujours, mais on pourrait avoir droit au chapitre, tu vois ? Et donc, il y a cette idée que l'idéal démocratique, pour moi, devrait s'imposer partout. Et c'est vrai que quand tu vois des partis politiques qui n'ont que la démocratie à la bouche et qui échouent à s'organiser de manière démocratique, tu peux t'interroger.
Peut-être que ça va exploser, parce qu'on sent quand même, depuis ces dernières semaines, quand même Ruffin prendre beaucoup de distance avec Mélenchon. On verra ce qui se passe, mais est-ce que toi, il y a des pays qui te donnent espoir, dont tu envies un petit peu le modèle démocratique ?
En fait, c'est le défi auquel on est confronté aujourd'hui. Il y a eu des expériences démocratiques très poussées, très enthousiasmantes. Il y en a eu. On cite beaucoup l'Islande. Effectivement, hein, l'Islande qui a fait une révision de sa constitution, de son régime politique très importante pour aller vers réellement quelque chose qui ressemblerait presque à une démocratie participative. Bon, l'Islande, c'est 300 000 habitants. Mmh. C'est l'équivalent de la ville de Nice. On voit bien qu'à Nice, on pourrait effectivement organiser une démocratie quasi directe.
Peut-être pas à Nice.
Bah, en l'occurrence, à Nice, ce serait difficile, bon, connaissant les Niçois et leur maire. Mais pourquoi pas, à la limite, tu vois. Ce que je veux dire, c'est que 300 000 personnes, on voit bien comment on peut s'auto-organiser facilement. 65 millions, c'est une autre échelle. Et donc, ce changement d'échelle pose des questions. Donc, Mais en fait, tu as raison, c'est la difficulté. Pourquoi ? Parce que les interrogations que je me permets d'émettre à l'égard de ce que nous appelons le régime démocratique, disons la démocratie représentative, ces interrogations, je ne suis pas du tout le seul à les émettre, et en fait, elles sont de plus en plus partagées, et aujourd'hui, on voit toutes les coutures qui sont en train de craquer de ce modèle démocratique. On voit que le mot ne suffit plus à rallier la légitimité et l'approbation des citoyennes et des citoyens. Ça ne suffit plus, il est interrogé. On l'a vu au moment des Gilets jaunes. Mouvement des Gilets jaunes à qui on peut là aussi adresser de nombreuses critiques, on peut réfléchir. Mais à minima, ça a été le moment où les citoyennes et les citoyens se sont réappropriés leurs paroles, ont pris la parole, ont discuté, même ne serait-ce qu'ensemble, ont refait du commun sur les ronds-points. L'expérience des ronds-points, si on se limite à cela, je ne parle pas des Champs-Élysées, je ne parle pas des manifestations, on pourrait discuter de tout ça, mais l'expérience des ronds-points, c'est un moment de création de commun. Les citoyennes et les citoyens se retrouvent dans un endroit commun, discutent, échangent et se rendent compte que leurs souffrances individuelles, leurs douleurs, leurs difficultés, leurs humiliations, en fait, ne sont pas individuelles, qu'elles sont partagées et que, en fait, ça n'est pas que des malheurs personnel, c'est de la politique, c'est du commun, c'est une condition sociale en tant que groupe social. Mmh. Et que derrière, il y a des luttes politiques à mener. Bon, ça c'était absolument, absolument passionnant de voir ça se créer sous nos yeux.
Un espoir de collectif.
Absolument. Donc on voit qu'aujourd'hui, la démocratie représentative, comme on l'appelle, est en train de craquer de toutes parts. Et donc la question c'est, je pense moi, qu'il va falloir inventer dans les années qui viennent, nous n'aurons pas le choix, un nouveau modèle de gouvernement. Et c'est là où je crois qu'on est à l'aube d'une lutte. Je crois même pas qu'on est à l'aube d'une lutte. Je pense que la lutte a commencé, qu'on n'en a simplement pas encore tout à fait conscience, entre deux modèles qui seront concurrents de la démocratie. Un modèle que moi j'appelle de mes voeux, qui est effectivement un modèle plus participatif, plus délibératif, où la parole des citoyennes et des citoyens est beaucoup plus valorisée, où chacun, chacune d'entre nous, nous pouvons faire valoir nos propositions, notre parole dans l'espace public. Et puis un autre modèle qui lui existe, c'est déjà imposé, qui en effet est un modèle plus illibéral, plus autoritaire, dont on voit déjà un avatar en Hongrie, dont on a vu l'ébauche d'un avatar dans l'Amérique de Donald Trump, dont on a vu des manifestations en Pologne, bon, etc., etc. Et la difficulté qu'on a, c'est que le modèle autoritaire, lui, on voit très bien comment y aller, on voit très bien comment le construire, c'est pas très compliqué. Ouais. Le modèle participatif, il reste à inventer. Il n'y a pas encore de grands pays à grande échelle qui ont réussi à le faire fonctionner. Moi, je refuse de dire que parce qu'on n'a pas encore réussi à le faire marcher.
On ne peut pas le rêver.
Absolument. Je refuse de dire que parce qu'on n'a pas réussi à le faire fonctionner, il ne fonctionnera jamais. Je pense qu'on peut y aller. Mais par contre, je pense qu'il faut ne pas être dupe et que c'est cette question-là qui est en jeu aujourd'hui. Dans quelle direction va-t-on amener nos régimes politiques ? Est-ce qu'on va les amener du côté de l'autoritarisme, de l'illibéralisme ? Et je crois en effet que le gouvernement actuel en France, pas seulement en France, c'est encore une fois l'Amérique de Trump, le Brésil de Bolsonaro.
Netanyahou, ces dernières semaines, les manifestations pour la Constitution, c'était déjà ce contre quoi se rebellaient les Israéliens Tel Aviv depuis des semaines.
Absolument, absolument. Donc on voit bien qu'il y a une tendance à aller dans cette direction-là. Je souhaiterais qu'on prenne un autre chemin de traverse. Ça va nécessiter beaucoup de travail, beaucoup d'imagination, beaucoup de réflexion en sciences politiques. Et puis ça va nécessiter aussi de prendre conscience, et c'est le travail que moi j'essaye de faire, de prendre conscience qu'une démocratie plus participative, plus délibérative, elle nécessite a priori, avant tout cela, que les citoyennes et les citoyens soient capables de s'exprimer, de prendre la parole. Et donc ça, c'est le travail que moi j'essaye de faire à travers le livre que j'ai publié, Le pouvoir rhétorique, qui vise à donner à toutes et à tous, à celles et ceux qui le désirent précisément, les clés pour s'exprimer, prendre la parole, défendre leur point de vue. C'est le travail que je fais à Montreuil, par exemple, où on a organisé tout un projet autour de l'éloquence et de la rhétorique, où on transmet la rhétorique, ça s'appelle les libres parleurs de Montreuil, on transmet la rhétorique à tous les lycéens et toutes les lycéennes qui le désirent. On a créé des ateliers rhétoriques dans tous les lycées publics de la ville de Montreuil, précisément dans cet idéal-là, celui de forger, de former des jeunes citoyennes et citoyens qui seront aptes à prendre la parole, à critiquer, à débattre, à s'exprimer, bref, à réaliser ce bel idéal de Condorcet, l'idéal démocratique selon Condorcet qui est celui d'un peuple de citoyens difficile à gouverner. C'est ça l'idéal démocratique, c'est un peuple de citoyennes et de citoyens difficile à gouverner. Eh bien, c'est ce que j'appelle de mes voeux, mais ça va nécessiter effectivement beaucoup de travail, de transmettre des compétences rhétoriques, et puis de transmettre aussi des prises de conscience, parce que ça c'est ce que dit Socrate en premier lieu, hein, le premier pas pour créer de la connaissance, c'est de découvrir son ignorance. Et bien de la même manière en politique, le premier pas pour agir, c'est de prendre conscience d'une situation qui ne nous convient pas. D'où le spectacle que j'ai coécrit avec Ferdinand Barbet, qui vise, à notre échelle, modestement, humblement, à tenter de faire prendre conscience une partie des citoyennes et des citoyens que quelque chose ne va pas dans la manière dont nous vivons notre démocratie aujourd'hui.
Et dans ton spectacle, tu pointes un autre ennemi. Tu parles du complotisme, de la désinformation, du danger d'Internet. Moi, j'ai ressenti ça.
Oui, absolument, absolument. C'est vrai. C'est vrai que cette question-là, c'est drôle que tu l'aies perçue parce que elle est présente en filigrane dans le spectacle. Mmh. C'est un spectacle qui se concentre vraiment sur la sphère du gouvernement. Hein. J'incarne le conseiller en communication. Tu l'as rappelé du président de la République. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est la communication politique. Mais c'est vrai que derrière, l'une des questions qu'on pose, c'est le rapport à la vérité. Et le mot de vérité, d'ailleurs, on me fait remarquer à juste titre que le mot de vérité, il est galvaudé. Donc en fait, c'est pas ça, c'est le rapport à la réalité. C'est-à-dire à ce que tout le monde peut observer dans le réel. Parce que la vérité, on peut débattre sur ce qui est vrai et faux, mais ce qui est réel, tu le constates. Après, c'est quelle dimension tu lui donnes, comment tu l'interprètes. Ça, là, on peut discuter, mais ce qui est réel, c'est réel. Ce que tu observes, tu l'observes. Les chiffres qui existent, ils existent. Les rapports d'experts qui ont été rédigés, ils ont été rédigés. Bon. Et donc, c'est vrai qu'il y a un rapport distordu à la réalité, dont on parle d'ailleurs depuis le début de cette discussion, et dont on parle aussi dans notre spectacle. Et c'est vrai qu'on pourrait tout à fait tirer les fils sur des sphères plus larges, et notamment la sphère, effectivement, des réseaux sociaux.
La Russie,
certains influenceurs, influenceuses qui racontent n'importe quoi sans en être manifestement inquiété, alors que tout le monde le sait. Bon. Mais ce qui est intéressant, c'est à ça que me fait penser ta question, c'est l'état d'esprit des spectateurs et des spectatrices quand ils sortent et elles sortent du spectacle. Et ça, c'est quelque chose d'intéressant. Il y a une question qu'on m'a souvent posée, c'est des gens qui viennent et qui me disent et maintenant ? Et c'est une question qu'on a beaucoup en sortant avec Ferdinand. Des gens viennent nous voir et disent, ok, d'accord, on a vu le spectacle, on a bien compris, on est bien en colère.
Ouais.
Et maintenant, tu nous laisses comme ça et qu'est-ce que toi tu proposes? Et je réponds toujours la même chose. Je réponds, mais moi les amis, mon idéal, il est démocratique. Mm. Donc si vous cherchez un guide, un leader, quelqu'un qui vous dira quoi penser, vous le cherchez au mauvais endroit. Mm. Moi, mon rôle, c'est justement d'essayer de susciter une prise de conscience sur ce qui est aujourd'hui, mais ce qui doit être demain. Ça, c'est plus mon rôle à moi. Ça, c'est un rôle politique, mais politique au sens noble du terme. Et donc, j'invite à chaque fois les spectateurices qui me posent cette question, je les invite à s'interroger elles-mêmes et eux-mêmes. Qu'est-ce que vous voulez? Dans quelle direction vous voulez aller? Comment vous voulez agir? Il y a plein de manières d'agir. On peut écrire des livres, on peut écrire des tribunes, des articles, des poèmes, on peut faire des podcasts, on peut s'engager au sein d'une association, on peut s'engager au sein d'un mouvement de lutte, on peut s'engager en politique. Il y a plein de manières. On peut écrire du théâtre. Il y a plein de manières de s'engager, de faire valoir son point de vue. Et donc, c'est ce que je dis aux spectateurs et aux spectatrices qui sortent et qui me disent, et maintenant quoi? Mmh. Alors, maintenant qu'on a pris conscience que la démocratie telle que nous la vivons, elle est plus qu'insatisfaisante, c'est l'euphémisme de l'année. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Je leur dis, à vous d'inventer, c'est votre boulot.
Ce qui donne de l'espoir, c'est déjà, tu proposes de sortir de chez soi et de sortir des écrans. Et c'est déjà aussi un élément de réponse, parce que déjà, le podcast, c'est pas un écran, mais je fais comme ça, je partage des bouts sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, c'est super, c'est là où les communautés s'activent. Mais il y a aussi, c'est aussi chouette de pouvoir en sortir et de s'installer et de créer un collectif dans une salle de spectacle. Il y a aussi un petit rêve de communion.
Oui, en fait, ce que tu dis là, c'est très important pour moi. Déjà, il y a deux dimensions qui ont commandé à cette volonté de passer sur scène, parce que moi, ça n'est pas mon travail. Hein, je ne suis pas comédien. Je fais le comédien pour ce spectacle. J'essaye de le faire du mieux que je peux. Mais effectivement, c'est pas mon métier. Il y avait une première dimension qui est purement individuelle et presque égoïste et qui est réelle, hein. C'était comme tu viens de le dire, mon envie de retrouver des gens sur scène, parce que tout en n'étant pas comédien, moi je suis enseignant, j'ai donné des milliers d'heures de cours en amphi, des dizaines et des dizaines d'heures de conférences, et c'est ce que je préfère. C'est vrai que les gens me connaissent à travers l'œil d'une caméra, parce que j'ai beaucoup tourné dans les médias tout de même, mais j'ai toujours préféré la présence des gens à l'œil froid de la caméra. Je suis pas du tout un youtubeur. Parler à une caméra, pour moi, c'est douloureux. Alors que être devant des gens, cette chaleur humaine, c'est vraiment ce que je voulais retrouver. Donc ça, c'est la dimension égoïste de la démarche. Et puis après, il y a une dimension que tu as très bien dite, qui est que le théâtre, c'est un lieu intrinsèquement politique et démocratique. C'est l'endroit où la parole, elle est horizontale. Alors certes, il y en a un qui parle et d'autres qui écoutent, mais malgré tout, on partage une réflexion. On est là ensemble. Le public manifeste son approbation ou sa réprobation. Et y a quelque chose de presque intrinsèquement subversif aujourd'hui, à se réunir à plusieurs centaines de personnes dans une pièce et réfléchir ensemble, rire ensemble, créer du commun. Et puis c'est vrai que le théâtre, c'est le lieu de l'artistique. Et la réflexion que je propose, et qu'on propose avec encore une fois Ferdinand Barbet, mon co-auteur, hein, on est vraiment deux sur ce spectacle, cette réflexion, elle aurait pu passer par un livre sans difficulté. Mais le livre, comme les chroniques d'ailleurs, vise à faire comprendre quelque chose aux lecteurs ou aux auditeurs. Alors que le spectacle, l'art d'une manière générale, vise à faire ressentir. Et moi, ce danger qui plane sur la démocratie, sur l'idéal démocratique, je trouve qu'il est tellement angoissant, tellement sourd, sombre et noir, que le faire comprendre ne suffit pas. Il fallait le faire ressentir. Et ça, c'est le domaine de l'artistique. C'est ce qu'on ne peut faire que sur une scène de théâtre ou dans un film, bien sûr, ou dans un roman. Mais en tout cas, on peut le faire sur une scène de théâtre. Et c'est ça qui, pour moi, pour nous, a justifié d'écrire une pièce et pas une conférence ou un livre.
Alors, je passe aux questions du questionnaire de Proust. La qualité que tu préfères chez un homme, Clément ?
Chez un homme, un genre homme ou un
c'est
être humain ?
C'est début du XXe siècle, donc c'est très genré. Je pense que c'est l'homme...
Chez un être humain ?
Non, c'est l'homme-homme.
Ah, l'homme-homme ? Alors,
un être masculin ?
Eh bien, aucune. Alors, pour le coup, je ne fais pas de distinction entre les qualités des hommes et des femmes.
Alors, qu'est-ce que tu préfères chez un être humain ?
Je dirais la simplicité.
Le principal trait de ton caractère ?
Les gens disent de moi que je suis gentil.
Ce que tu apprécies le plus chez tes amis ?
Leur simplicité.
Ton principal défaut ?
C'est l'obsession, je dirais. Je suis un grand obsessionnel.
Pourtant, tu fais tellement plein de choses et tu traites tellement de sujets. Mais t'es maniaco, d'un coup, t'es en boule sur un... tu peux rester en boule sur un truc ?
Non, j'ai un caractère un peu...
Aller fouiller tout jusqu'au dernier repli du...
Oui, voilà, c'est ouais. Ça. Je peux être très perfectionniste. Voilà, obsessionnel en ce sens-là, très, très perfectionniste. Très exigeant, avant tout avec moi-même. J'ai du mal à considérer que quelque chose est suffisamment bien fini.
Je comprends. Ton occupation préférée ?
Figure-toi que mon occupation préférée, ce sont celles que j'ai le plaisir de faire en ce moment. C'est la scène et Twitch. J'ai cette chance-là en ce moment d'avoir fait de mes... d'avoir réussi à conquérir en occupation principale, au pluriel, les activités qui me rendent le plus heureux.
Et ça se sent. Et quand t'entends sur Twitch, j'ai l'impression qu'aussi tu te régales et tu es apaisé dans le temps long. Est-ce que c'est un soulagement après la demande d'efficacité en temps court sur des émissions télé comme Clic ou Quotidien ?
Ben, moi, l'exercice de la chronique, je l'ai beaucoup aimé. Il m'a beaucoup exalté. Je l'ai toujours trouvé intellectuellement incroyablement stimulant, très difficile, mais très stimulant. Être forcé de se lever le matin en se disant « je ne sais pas de quoi je vais parler, mais je sais qu'à 19h, j'aurai trouvé 3 minutes 30 au cordeau, vérifier jusque dans le moindre mot à dire au public », il y a quelque chose qui, effectivement, est très exaltant, très intéressant, très formateur. Mais... en effet, ça n'est pas mon format naturel. Et moi, je m'épanouis beaucoup plus sur Twitch, où j'ai le plaisir d'avoir une pensée en mouvement, en recherche permanente. Le chat sur Twitch est vraiment l'acteur principal. Donc Twitch, c'est une plateforme de diffusion de vidéos en direct, hein, pour celles et ceux qui l'ignoreraient encore. Et c'est vrai qu'on a le plaisir sur Twitch d'être relancé, d'être challengé, d'être contesté parfois, et à juste titre parfois, par les viewers et les vieweuses, comme on les appelle, les auditeurs et les auditrices. Et ça, c'est intéressant. Ça permet de nous emmener plus loin et de prendre le temps d'aller plus loin. Et puis, ça permet d'être soi-même aussi. C'est vrai que j'imagine que tu en sais quelque chose, l'exercice de la chronique t'enferme dans un personnage que tu te construis. Quand tout d'un coup, les gens sur Twitch te découvrent un peu plus comme tu es, il y a aussi quelque chose de l'abandon du masque qui est extrêmement soulageant.
Ton idée du bonheur ?
J'en ai deux. Et tout j'en ai deux et tout l'enjeu étant de réussir à les faire coexister. La première, c'est être utile à la société, essayer comme on peut d'être utile à la société. Et la deuxième, c'est être bien avec ses proches. Tout l'enjeu étant de réussir à faire concilier ces deux exigences.
Où aimerais-tu vivre ?
Oh, moi, je suis né presque à Paris. Je suis né en banlieue parisienne, mais j'ai vécu toute ma vie à Paris. Je suis un vrai, honnête, franc parisien de naissance. Donc, je suis très heureux à Paris. Mais c'est vrai que l'âge aidant, la quarantaine approchant malgré tout, hein, ça se chiffre maintenant en mois, c'est vrai que la perspective romantico-bucolico-cliché d'un petit cours d'eau, quelques arbres, pourquoi pas un peu de verdure, peut-être même pourrait-on imaginer les gazouillis de quelques oiseaux perchés là-haut dans les branches, c'est vrai que je commence à y voir une vision séduisante.
Je comprends. Quel serait ton plus grand malheur ?
Il y en a plein. Mon plus grand malheur aujourd'hui, ce serait d'être abandonné par les proches qui me sont les plus chers, déjà. Commençons par là. Et en fait, mes deux plus grands malheurs seraient les pendants de mes deux idées du bonheur. Le premier, ce serait être abandonné par les proches qui me sont chers, bien sûr. Et puis, par ailleurs, ce serait de se réveiller un matin en se disant que on vient de consacrer 5, 10, 20 ans de sa vie à quelque chose qui n'a aucune utilité.
Ce que tu détestes par-dessus tout ?
Ce que je déteste par-dessus tout, c'est le refus de prendre ses responsabilités. Et je pense que c'est vrai à la fois dans le privé et en politique.
Est-ce que parfois il y a certains sujets, vu que tu commentes beaucoup l'actualité, sur lesquels tu décides que tu n'as pas forcément envie de t'exprimer ?
Bien sûr, oui, tout à fait, bien sûr, pour plusieurs raisons. Soit parce que je ne suis pas compétent. Par exemple, là, il y a eu un mouvement social parmi les agriculteurs, agricultrices, c'est une question qui est très complexe. On ne peut pas être expert sur tout, et moi, c'est une question que je n'ai jamais creusée. Donc, je suis resté très en surplomb, et j'ai eu des mots, je n'ose même pas dire des commentaires, et surtout pas des analyses, sur ce moment, qui était très prudent, très surplombant, et en confessant bien volontiers mon ignorance. Donc oui, je refuse de m'exprimer quand je suis pas bon, quand je suis pas compétent, et c'est important de le dire et d'être honnête, et de faire comprendre aux gens qu'on peut pas être bon sur tout et partout, et qu'il faut plutôt se méfier des gens qui prétendent avoir un avis sur tout, me semble-t-il. Donc voilà, je peux refuser de m'exprimer sur des sujets dont je considère qu'ils ne doivent pas faire l'actualité. Et ça, c'est notamment une des raisons qui fait que l'exercice de la chronique peut être parfois difficile, c'est-à-dire que, et je crois que là aussi, enfin j'imagine que toi aussi tu dois le savoir, c'est-à-dire que parfois le sujet du jour c'est ça, et toi tu dis mais ça ne devrait pas faire l'actualité, on ne devrait même pas en parler, ça n'est pas le début du commencement d'un enjeu, et pourtant tu dois trouver quelque chose à en dire, alors c'est là où il faut être un peu malin, c'est là où il faut, où c'est peut-être l'opportunité d'expliquer que précisément ça ne devrait pas être cela la question posée, mais aujourd'hui donc typiquement sur Twitch c'est des questions sur lesquelles je dis non, je n'en parlerai pas parce que je crois que ça n'est pas un enjeu, ça ne mérite pas d'en parler, et puis il y a des questions qui peuvent me toucher tellement que je me méfie moi-même de ma propre opinion, et donc là aussi je décide de laisser cela dans le silence parce que de la même manière que je me méfie de mon ignorance, je me méfie aussi de mes mouvements d'humeur et de mes mouvements émotionnels qui pourraient m'amener à dire des choses que je regretterais quelques semaines ou mois plus tard.
Comment aimerais-tu mourir ?
Le plus tard possible,
ouais.
Le plus tard possible et le plus sereinement possible de préférence. Voilà, j'aime l'idée de s'endormir sans se réveiller, mais très tard. Dans longtemps.
Quand il y aura le coucou des oiseaux, le bruissement de la forêt,
peut-être
le ruisseau.
Bien, absolument, absolument. Le bruit de l'eau qui coule au loin, le sentiment d'unicité avec ce grand tout. Pourquoi pas quelque chose comme ça. Mais en tout cas, tard et sans douleur. Ça m'irait très bien.
Et enfin, quel est ton état d'esprit actuel ?
Mon Ferdinand Barbet, donc le co-auteur et metteur en scène du spectacle, m'a dit, quand on a commencé la série de représentations au Le Pic, parce qu'on a déjà un peu tourné avec le spectacle, on l'avait joué 6 ou 7 fois, mais sur un temps assez long, on l'a joué 6 fois entre septembre et décembre dernier, dans des salles très différentes, avec donc à chaque fois un intérêt renouvelé, et là on abordait donc cette série de 30 représentations dans le même lieu, 3 fois par semaine. Et Ferdinand, il m'a dit cette chose. Il m'a dit, tu sais Clément, on dit souvent aux comédiennes, comédiens qui s'apprêtent à jouer comme ça longtemps au même endroit, on leur dit, surtout n'oublie pas de t'amuser. Mmh. Et il m'a dit, moi je pense que ce qu'il faut faire sur scène, et particulièrement avec ce spectacle, ce n'est pas s'amuser. Ce qu'il faut viser, c'est plutôt une joie féroce. Eh bien, la joie féroce, ça résume assez bien mon état d'esprit actuel.
Ah, génial. Merci Clément.
Merci Rosa.
Et voilà, c'était Clément Viktorovitch. C'est très intéressant, je trouve qu'il place en 1 la clé de son bonheur dans son utilité à la société et en 2 d'être bien avec ses proches. C'est inspirant les invités du podcast avec un idéal si fort. J'espère ne pas avoir été trop narcissique au début de l'épisode en mettant ma chronique sur l'illibéralisme, mais ça a bien aiguillé notre discussion et c'était intéressant de l'entendre aussi faire des parallèles entre le 49.3 et le couple. Je vous laisse car j'enregistre cet outro à Amsterdam. Je dois partir jouer dans quelques minutes et je suis à la bourre. Mais je vous embrasse bien fort. Bisous.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Vous avez aimé cet épisode? N'hésitez pas à le dire en faisant une petite story, en taguant mon compte et celui du podcast @lesmecsquejeveuxken sur Insta. Vous pouvez également soutenir mon travail en venant voir mon spectacle, en lisant mon livre et en commentant sur YouTube les replays vidéo de mes chroniques sur France Inter. Je suis tous les mardis dans Zoom Zoom Zen. Merci, bisous.